Il y a une question critique très importante. On fait un peu un pont au-dessus. Pourquoi notre intelligence interroge-t-elle de cette manière? Venez par la découverte des quatre causes, des cinq causes. Comment se fait-il ça? Est-ce que c'est une donnée? Est-ce que c'est une invention d'Aristote et donc qui est uniquement attachée à un homme intelligent, mais attachée à un homme? Ou est-ce que c'est vraiment notre nature humaine qui est en cause? Vous voyez? Aujourd'hui, comme tout est critiqué, nous sommes à l'âge de la critique, hein, faut pas l'oublier, après Kant, c'est l'âge de la critique. Anciennement, la critique existait, mais elle était simultanée. Vous voyez, c'est pour ça que c'est si difficile pour nous de lire Aristote et de chercher dans le livre Zeta toute sa conception de la substance. C'est que la critique est presque simultanée à chaque moment où on creuse. Notre intelligence avance en cherchant de plus en plus les diverses causes. Et l'intelligence avance dans certaines déterminations. Aristote, parce que c'est le grand mérite d'Aristote. Alors c'est intéressant de savoir si vraiment ce qu'Aristote dit touche notre nature humaine, une intelligence qui est dépendante des sens, des sensations et de l'imagination. Nous sommes un esprit dans un corps. Ça, c'est difficile de changer ça. Jusque maintenant, ça n'a pas beaucoup changé. Depuis les Grecs, ça n'a pas beaucoup changé. Et dans tous les pays, c'est toujours intelligent ces corps. Alors, c'est très vrai, au fond, l'équilibre entre l'intelligence et le corps et les sensations sont vus très différemment. Et la grande diversité des philosophies provient de ça. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être intelligent. Il y a nos sensations et notre intelligence et l'équilibre intelligence et sensation est très varié et très variable. Il y a sûrement une manière où l'équilibre est le plus parfait. Aristote a découvert, lui, cette recherche par les diverses causalités. Il l'a découvert en s'appuyant sur toute la tradition philosophique, en voyant que de fait, c'est cela que l'homme recherche tout le temps. C'est pas tout une idée a priori pour Aristote. La recherche des quatre causes, c'est pas une idée a priori. Nous, quelquefois, on considérerait que c'est Aristote, c'est une idée a priori. Aristote est historien, c'est le propre d'Aristote. C'est Aristote, en tant qu'il réfléchit sur la nature humaine engagée dans la recherche de la vérité, par le point de vue de l'expérience, et que cette recherche de la vérité, par le fait même, est toujours en dépendance de cette intelligence qui est liée au sens. Nous ne recherchons pas de la même façon la vérité parce que nous sommes des êtres liés à la matière. Nous ne recherchons pas la vérité de la même manière que si on était de purs esprits. On a toujours la tendance et la tentation de se considérer comme pur esprit. Vous voyez, au fond, cette tentation chez Descartes, qui est très forte, c'est au fond, c'est de dire les sens nous trompent. Le fameux exemple, soit de toujours que le point de vue des sensations, les sensations ne nous donne pas le réel tel qu'il est. Il est déjà transformé par nos sensations. Vous mettez un bâton dans l'eau, ben oui, vous pouvez voir le bâton est comme coupé en deux. Il y a la vue, donc la sens, transforme le réel et le réel est tout de suite transformé par notre imagination et par notre intelligence. Alors, il peut y avoir un souci de l'intelligence, de dire, oui, c'est sûr, nous dépendons du réel, nous dépendons des sens externes, mais nous les observons, nous les corrigeons. C'est notre intelligence qui commande notre connaissance des choses et non pas nos sensations qui commandent la connaissance des choses. Vous voyez, il y a un équilibre foncier et pour une perspective critique extrêmement intéressante. Au fond, nous transformons tout. Donc, ce que nous connaissons, ce n'est pas le réel, c'est ce que nous avons transformé. C'est ce que nous connaissons. Et il y a une part de vérité. C'est que ce que vous connaissez, ce n'est pas ce que moi je connais. Nous le connaissons autrement. Chacun. Alors, où est la vérité? Est-ce que la vérité, c'est de reconnaître cette variété, cette différence de chacun, en disant, il n'y a pas de vérité. On est dans une connaissance purement relative. Et relative selon chacun. Donc, il n'y a pas de vérité. Ou bien, au contraire, oui, l'intelligence est faite pour connaître la vérité. L'intelligence, ne la voyez pas comme une super sensation. Ne voyez pas l'intelligence dans le prolongement des sensations. Elle n'est pas le prolongement des sensations. L'intelligence a son exigence naturelle propre, qui n'a rien à faire avec les sensations. Rien à faire. Rien à faire directement. Elle n'est pas dépendante des sensations. Vous voyez, c'est le problème critique pour nous, hommes du XXe siècle et à la fin du XXe siècle, du XXIe siècle. Pour nous, le problème critique avec Kant se situe avant même de marcher. Mais on a au fond cette espèce de super critique qui veut que la critique soit première. Alors, si la critique est première, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a à critiquer? La critique est nécessairement seconde. Il faut avoir une matière à critiquer. Si vous mettez la critique en premier lieu, quelle est la matière à critiquer? Alors ça devient votre propre manière de connaître, qui est naturelle. Est-ce que vous critiquez la nature? Est-ce que vous critiquez le fait que nous sommes des êtres intelligents et des êtres sensibles? Nous sommes les deux. Ben, ça, c'est un donné. On ne changera pas ça. On est obligé de reconnaître qu'il y a deux sources de la connaissance. L'une dans le prolongement des sensations. L'autre qui est un nouveau départ, c'est l'intelligence. Est-ce que l'intelligence est totalement dépendante des sens, ou est-ce que l'intelligence peut atteindre le réel à travers les sens? C'est là le gros problème. Et c'est un problème qui est présupposé, hein, puisque on ne fait pas la critique en premier lieu, mais il est très coextensible pour Aristote dans le livre de la métaphysique, le Zéton métaphysique sur la recherche de la substance. L'aspect critique et l'aspect proprement métaphysique, philosophie première, sont très liés. Aristote avance en critiquant. C'est très étonnant. Et c'est pour ça que la solution, elle est dans le dernier chapitre du livre de Zéton. C'est très étonnant. Nous ne sommes pas du tout habitués à ça. Il y a une critique coextensible tout le temps. Depuis Kant, on a séparé beaucoup plus l'aspect positif, l'aspect critique. On l'a séparé parce que Kant lui-même le sépare. Il y a une séparation beaucoup plus nette. On est après Kant. Il faut bien le reconnaître. Kant existe. Et Kant a marqué très profondément la philosophie. En Allemagne, les philosophes allemands, toute la difficulté, c'est de dépasser Kant. C'est de comprendre Kant, mais la critique première. La critique première, vous n'avancez pas. Vous restez sur cette critique. Alors, la grande critique dans laquelle il faut être conscient, la grande critique qu'on peut faire à Aristote, c'est que Aristote dit la recherche des quatre causes. Mais la recherche des quatre causes, pourquoi vous dites ça? Pourquoi dites-vous que la science c'est la recherche des causes et la métaphysique c'est la recherche des causes? C'est une donnée a priori, ça c'est. Alors qu'en réalité, la recherche des quatre causes repose sur la nature même de mon intelligence qui atteint le réel par les sens. Aristote a saisi, et c'était le gros problème d'Aristote, comment nous dépendons du réel par les sensations, et comment cette dépendance du réel par les sensations risque tout le temps de nous mettre dans des fausses pistes, parce que nous mettons alors les sensations avant la connaissance. Nous avons deux sources de connaissance, nos sensations et l'intelligence. Et comment le lien entre les deux doit se faire? Doit-on écouter nos sensations? Doit-on écouter notre intelligence? Donc, deux grandes positions. Alors, ça, c'est net. Deux grandes positions. Et ces grandes positions existaient en philosophie grecque et elles existent actuellement encore. Il y a deux grandes positions considérées comme notre connaissance est liée à l'expérimentation. À l'expérience et l'expérimentation. Et puis, l'autre position, mais notre conscience philosophique n'est pas liée à ça, celle de Platon. Nous avons des possibilités d'intuition. Et notre intelligence peut dépasser et dépasse de beaucoup le point de vue des sensations. Et c'est notre intelligence qui est première. Il vaut mieux être intelligent que de rester dans la sensation. L'intelligence domine. Alors, quelle est sa dépendance à l'égard du réel ? Quelle est cette dépendance à l'égard des sensations? Oui, c'est un problème critique. Le problème critique, il est là. Alors, on peut le mettre au début, mais on critique quelque chose qu'on connaît. On a déjà l'expérience de nos sensations, de ce que nous connaissons par les sensations, de ce que nous connaissons par l'intelligence. À quel moment l'intelligence est-elle supérieure aux sensations? À quel moment l'intelligence dépasse-t-elle les sensations? C'est ça qui est important. Alors, deux grands dépassements, le dépassement de l'universel et de la saisie d'un principe. Et c'est tout à fait différent. La connaissance de l'universel, bon, le langage nous montre que c'est la connaissance comme naturelle de notre intelligence. Le langage montre qu'il y a une connaissance universelle. Pierre, homme. Papa, homme. Homme, c'est... J'ai jamais rencontré l'homme. L'homme universel, mais ça ne se rencontre pas. Ce que je rencontre, c'est Pierre, Jacques et Jean. Ça, je les rencontre, je sais ce que c'est. Vous voyez, est-ce qu'au fond, dès que je quitte le singulier, ce que j'expérimente, je suis déjà dans une perspective subjective. Est-ce que pour la connaissance de l'universel, l'aspect subjectif n'est-elle pas première? Homme. Vous n'avez jamais vu un homme. Vous seriez effrayé si vous voyez l'homme. Et pourtant, ça ne vous pose aucun problème. Du moins, je crois, ça vous pose quand même. Dans le langage, ben oui, l'universel est utilisé. Et je n'ai pas encore réfléchi sur l'universel. Je constate qu'il existe. Donc, il y a un problème. D'où vient l'universel? Est-ce que l'universel me permet encore de toucher le réel? Ou est-ce que l'universel ne me permet pas de toucher le réel? Quand je dis homme, est-ce que je touche quelque chose qui est vrai, qui existe, ou seulement le fruit de ma pensée? C'est bon, c'est bon. Oui, comme c'est important, parce que toutes les sciences sont sur l'universel. Alors, est-ce que l'universel saisit encore quelque chose de vrai, de réel, ou est-ce que l'universel, c'est mon intelligence qui cogite? Je m'enferme dans mon intelligence. Je n'ai jamais rencontré l'universel. Donc, si je n'ai jamais rencontré l'universel, l'universel n'existe pas. Alors on dira, l'universel, c'est un être de raison. Oui. Un être de raison. Parce que c'est l'intelligence qui l'a fait. J'ai jamais vu l'universel. L'universel n'existe pas. Il n'existe pas comme universel en dehors de mon intelligence. C'est mon intelligence. Alors, vous voyez, comprenez que le problème critique est un problème qui provient du fait même d'une intelligence liée au sens. Et il y a là un problème constant et qui est présent à toute philosophie. Ça, c'est sûr, c'est présent à toute philosophie. Et alors, j'ai une conception a priori, je ne sais pas d'où elle vient, de ma première éducation, sans doute, une conception des rapports entre les sensations et mon intelligence. Et dans mon intelligence, j'ai encore la possibilité de voir que les sciences sont multiples. L'universel se donne à moi de cinq manières. Donc tout de suite, dans ma connaissance, il y a une diversité à l'intérieur de l'unité. Une certaine unité, mais une diversité. Alors, est-ce que cette diversité, c'est un problème qui est très, très curieux, est-ce que cette diversité que j'ai de l'universel, genre, différents spécifiques, espèces, propres, accidents, cinq. Cinq modalités d'universel. Est-ce que ces cinq modalités d'universel sont-elles en relation avec mes cinq sens? Ah, tiens. J'ai cinq sens. J'ai le toucher, j'ai la vision, j'ai le goût, j'ai l'ouïe. Cinq sens. Cinq ouvertures à la réalité. Alors, c'est pas étonnant que j'ai cinq modalités d'universel. Il doit y avoir un lien. Et alors, est-ce que mon intelligence s'arrête à l'universel? Oh. Dès que mon intelligence touche l'universel, elle touche une certaine indépendance par rapport au sens. C'est curieux. Votre première indépendance vis-à-vis des sens, c'est la connaissance de l'universel, puisque l'universel, vous ne le touchez pas, vous ne le voyez pas, vous ne le goûtez pas, vous ne l'entendez pas. L'universel, être de raison. Être de raison. C'est mon intelligence qui en est la source. Alors, une fois que je réfléchis sur l'universel, que je vois qu'il y a ces cinq modalités, je dis ces cinq modalités, oui, c'est code naturel à moi. Tout le monde pense ça. Alors là, tout le monde se serait regardé dans les diverses langues, les manières de combiner ces cinq modalités. Mais je crois que ces cinq modalités existent toujours. Alors, il faudrait essayer de les comprendre dans la pensée chinoise. Cinq modalités. Est-ce qu'on retrouve aussi dans la pensée chinoise cinq modalités par rapport à une connaissance qui n'est pas, dès le point de départ, abstraite? L'abstraction universelle est plus difficile à saisir directement dans la langue chinoise. C'est très curieux. Il faudrait revenir au grec, puisque notre connaissance, notre manière de penser, elle s'est enracinée chez les Grecs. Et c'est eux qui nous ont donné ces premières connaissances. Une fois que je comprends l'universel, je vois que l'universel lui-même se donne à moi de deux façons différentes. Il y a l'universel, fruit de l'abstraction, être de raison, et puis quelque chose de beaucoup plus profond, la saisie d'un principe. Le principe n'est pas une loi. Là, c'est la loi est aussi saisie par l'intelligence. La loi est dans le prolongement de la connaissance universelle. Mais c'est un point de vue pratique. Je donne des lois. La naissance de la loi, c'est un très gros problème, très intéressant pour voir ce que c'est que les connaissances pratiques. Et la loi, elle est parallèle à l'universel. Vous voyez que la loi est toujours quelque chose de désagréable pour l'intelligence. Parce que ça fait comme une barrière, je ne peux pas avancer plus loin. Et il y a, au-delà de la loi, il y a la saisie du principe. Constatation. L'intelligence saisit des principes. Qu'est-ce que c'est? Et à partir de là, Aristote nous a donné ces diverses interrogations de l'intelligence. Ces différentes interrogations de l'intelligence, il les a saisies à partir de l'expérience et à partir de sa manière de faire l'histoire de la philosophie. Parce qu'il y a une manière aristotélicienne de faire l'histoire de la philosophie. Dans son livre de philosophie première, de métaphysique, Aristote fait toujours un petit inventaire sur la manière dont ça a été compris, tel problème. Et il remarque alors qu'en effet, il y a cinq grandes interrogations. Et l'interrogation, c'est quoi? Ça représente mon intelligence qui veut, au-delà de l'universel, saisir le principe. C'est mon intelligence qui, elle-même, veut saisir, au-delà de l'universel, des principes. Parce que l'universel, être de raison, le principe, il est dans la réalité. Une philosophie ne repose pas sur l'universel. Une philosophie repose sur les principes. Une philosophie repose sur les principes. Sur la saisie des principes. Qui est la saisie de quelque chose de réel que l'intelligence seule saisit. Tandis que l'universel, l'intelligence saisit l'universel grâce au sens. Donc elle est liée au sens. Je faudrait bien savoir, je ne le sais pas, qu'est-ce que c'est que l'universel pour un ange. L'universel pour l'homme, je vois très bien ce que c'est. C'est très connaturel à notre intelligence. Notre intelligence a besoin de dépasser les sens. Alors, l'intelligence arrive à partir des sens à une connaissance universelle. Et cette connaissance universelle reste être de raison, c'est pas suffisant. Mon intelligence est faite. Alors là, vous voyez, il y a une conception de l'intelligence. Elle est faite pour connaître la réalité. Mais elle est faite pour connaître la réalité, non pas en dépendance des sens et de l'expérience, mais elle est faite pour connaître la réalité en elle-même, et non pas à travers ma connaissance. Autrement dit, il y a toujours ce problème objectif, subjectif. Dès que je connais quelque chose, je le transforme, subjectif. Mais je connais quelque chose, objectif. Qu'est-ce qu'il y a d'objectif dans la connaissance universelle? Qu'est-ce qu'il y a de subjectif dans la connaissance universelle? Vous voyez, et c'est là le problème critique. Hein. Le problème critique, c'est d'essayer de saisir l'aspect de la subjectivité, l'aspect de l'objectivité. Qu'est-ce qu'il y a d'objectif dans la connaissance de dire homme? Alors vous allez répondre tout de suite, la nature humaine. Ah. Mais il a fallu une certaine élaboration pour voir que le fondement de l'universel, c'est la nature. La nature est la même et donc elle permet cette connaissance universelle. Mais la nature... Il n'y a que les individus qui existent. La nature n'existe que dans les individus. Ah, donc, elle n'existe que dans les individus. L'individu seul est objet d'expérience. Je n'ai pas l'expérience de l'universel. Parce que l'universel n'existe que grâce à ma pensée. Donc, je n'ai pas d'expérience de l'universel. Je n'ai pas d'expérience objective de l'universel. L'universel, c'est la subjectivité maîtresse. Ce que l'intelligence secrète de l'universel, c'est quand même quelque chose de formidable. Et le secrète universel. Et l'universel... Je le tire des sens externes, et nombreuses expériences des sens externes font qu'il y a quelque chose de commun dans toute l'expérience que j'ai de Pierre, Jacques, Jean. Qu'est-ce que c'est que ce commun? Ah, ils sont hommes. Et donc, c'est ce qu'il y a de commun, ce qui peut être abstrait de l'universel, parce qu'il est commun. Je crois que c'est très important de bien comprendre que mon intelligence est toujours en quête d'universel. Mais mon intelligence dépasse l'universel. Vous voyez, au fond, je pourrais dire que mon intelligence, elle vit à partir des sens. Mon intelligence, elle vit pour elle-même. Mon intelligence vit à partir des sens, d'où elle secrète l'universel. L'intelligence vit pour elle-même, d'où ses idées principes. C'est double mouvement. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Parce que cette constatation, à partir du XIVe siècle, s'est faite d'une façon très particulière. C'est la naissance de la critique première qui apparaît. Alors je crois que c'est très important pour nous, dès que nous allons chercher, à partir de l'interrogation, qu'est-ce que l'être ? L'être, je l'expérimente. L'être, c'est Pierre, Jacques, Jean. L'être, c'est tout ce que je constate, la pierre. L'être, c'est l'arbre. L'être, c'est tout ce qui est. Alors, mon intelligence voit qu'il y a quelque chose de commun dans toutes les réalités. Elles sont. Elles existent. C'est quand même curieux, ça. Toutes les réalités que vous expérimentez, elles existent. Elles en ont quelque chose de commun. Et alors, je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce chose de commun ? Le chose de commun chez les vivants. Ah oui, voilà, oh, les vivants, oui. Voilà. Différence du vivant et de la pierre. Et l'eau. Et le vent. Oui, chose de différent. Le vivant. Le vivant a une autonomie tout à fait particulière que n'a pas l'eau. L'eau individuelle. Est-ce que c'est l'océan ? Ou est-ce que c'est le verre d'eau ? C'est extraordinaire. Le verre d'eau, c'est l'eau. L'océan, c'est l'eau. Alors, est-ce que ça change de nature entre l'océan, l'un est salé, l'autre n'est pas. Oui, ça, oui, mais ça, c'est très accidentel. Salé, pas salé. Est-ce que ça change l'eau, la terre, le vent, le vivant? Le vivant apparaît dans le monde physique. Et quel est le lien entre le vivant et le monde physique ? Gros problème de l'évolution. Est-ce que la vie provient du monde physique ? Est-ce que c'est le monde physique qui, étant de plus en plus parfait, au bout d'un certain temps, se met à vivre ? Je n'ai aucune expérience de ça. Non ? Des passages de la Terre au vent. Ah oui, j'ai ce fait que je garde la terre au bout d'un certain temps. Il y a des asticots, des petits vers. Alors, donc, oui, ça sort de la terre. Oui, mais en étudiant bien, on dira, ah, c'est parce que la terre porte des œufs. Le vivant a pondu dans la terre. Et l'œuf s'est développé. C'est pas la terre, c'est l'œuf. Ah, ah, alors d'où vient la vie ? D'où vient l'œuf ? L'œuf vient de la poule, et la poule, elle vient de l'œuf. Alors, une espèce d'autonomie du vivant qui dépasse le point de vue de la matière. Progressivement, l'intelligence se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, c'est ce qu'il y a de commun à tout ce que j'expérimente. Pas l'être universel, qui est un être de raison. L'être de raison, c'est autre chose. L'être de raison, laissons l'intelligence. Mais au fond, l'homme, au bout d'un certain temps, confond l'être